le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, c'est un peu route ce matin, on prend l'antenne. Il est 9h39, passé d'une minute, merci d'être avec nous sur le 81e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Vous avez été très nombreux hier soir, merci. Commentez, likez, partagez, le podcast est disponible comme d'habitude, voilà, sur Territoria et sur Radio Imo. Merci d'être avec nous, on va parler un peu de la politique du logement dans notre pays, on en a bien besoin, parce qu'il n'a échappé à personne qu'il y avait quand même 5 millions de Français qui n'étaient pas forcément bien logés dans ce pays et qu'il fallait faire quelque chose aussi pour eux, pour en parler, des professionnels. Aujourd'hui, de la construction de l'immobilier en général, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Vincent Mahé, directeur général de CDC Habitat. Bonjour, bonjour Vincent, comment ça va ?
Ça va très bien.
Je suis ravi de vous accueillir, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve sur le plateau. Alors moi j'aime bien votre façon de voir les choses, on va en parler tout à l'heure, pour parler de la politique de logement. Première aussi sur la radio, je suis ravi de l'avoir sur le plateau, Patrice Thiet, directeur général adjoint d'Action Logement Immobilier.
Bonjour.
Comment ça va Patrice ?
Parfaitement bien.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, une personne qui n'était pas prévue sur le plateau, mais qui nous a fait l'honneur d'y venir, voilà, et au pied levé, délégué général de la ville de Marseille, Benoît Quignon est avec nous.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Voilà. On va parler logement. Vous êtes d'accord ? On va parler de la politique du logement. On va réenchanter, si on peut, la politique quand même. Hein. Alors, bien évidemment, Vincent, je ne peux pas, je peux pas résister. Il faut que je vous pose cette question. Nous avons hier entendu le discours de Jean Castex. C'est rare quand même. Enfin, ce n'est pas tous les jours qu'au congrès de l'USH, on a un Premier ministre qui se déplace. Il faut dire.
Oui, la dernière fois, j'arrive déjà d'ailleurs plus à me souvenir quand c'était la dernière fois. Donc, c'est pas si fréquent que ça.
Oui, voilà, c'est pas si fréquent que ça. On a tous dans le souvenir à Strasbourg un congrès haut en couleur avec Julien de Normandie qui a été quasiment exfiltré de la scène avec un Dumont qui était carrément monté sur scène pour calmer les ardeurs des uns et des autres. On voit bien que l'ambiance a quand même bien changé hein, sur le congrès. Alors je vais faire mon journaliste, mais on va dire, voilà, il y a eu une grande déclaration d'amour au logement social, vous êtes utile, vous êtes nécessaire dans le paysage. Mais je m'étonne que les annonces qui ont été faites étaient on va dire, il n'y avait pas énormément de scoop, peut-être si pour la taxe foncière, pour les bailleurs, mais enfin...
C'est important. C'est pas un discours qui a été fait pour susciter la polémique. Hein. Vous venez de le dire gentiment. Et donc peut-être qu'il n'y a pas assez d'accroche d'un point de vue journalistique ou médiatique. Mais c'est un discours qui a du fond. C'est-à-dire que pour moi, le Premier ministre a pris sa responsabilité qui est de donner une direction et de prendre quelques mesures ciblées qui permettent aux acteurs de produire du logement. Donc donner la direction, c'est de dire que oui, il est important de construire. De construire du logement social et du logement intermédiaire, si vous l'avez écouté, il a vraiment sans cesse hein, rapproché les deux, parce qu'il y a le logement des gens en très grande difficulté, il y a le logement des classes moyennes qui devient aussi une difficulté dans notre pays. Et donc il a donné une direction en indiquant clairement qu'il était important de construire, et puis ensuite il a pris ses responsabilités. Alors du point de vue de l'État, qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités ? Ça veut dire faire que l'acte de construire un logement ne soit pas seulement à la charge financière des collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui a bloqué beaucoup d'opérations au cours de l'année écoulée. C'est que quand un maire construit, il a tous les embêtements, les recours des riverains, les mécontentements éventuels. Il a des coûts directs, construire des écoles, construire des équipements publics. Et en face, il n'avait plus aucune recette, en tout cas pour le logement social, puisque... La suppression de la taxe d'habitation a complètement bouleversé le paysage. Il y avait deux impôts, il y avait la taxe d'habitation et la taxe foncière. La taxe foncière pour le logement social, il y a toujours eu une exonération. La taxe d'habitation, tout d'un coup, elle disparaît. Et donc ce qu'est venu dire le Premier ministre, et c'est un vrai geste politique, c'est de dire les collectivités qui construiront du logement social auront bien la taxe foncière, en tout cas pendant les 10 prochaines années, quand elles feront du logement social. Et sur le logement intermédiaire, pareil, mais par un autre mécanisme, pas besoin d'entrer dans les détails. Donc c'est une façon de dire, en tout cas, l'État fait tout ce qu'il faut de son côté pour que la construction reprenne. Maintenant, évidemment, il faut aussi que les collectivités se saisissent de ça et de l'urgence de construire.
Réaction, Patrice Thiet.
Je partage que le fait que le Premier ministre est venu en pacificateur et en tout cas... venir parler en responsabilité et en respectant les acteurs du logement et puis particulièrement du logement social, puisqu'on est dans le cadre du congrès des HLM. Le sujet du logement est trop important pour qu'on ne soit pas sur cette posture-là. Aujourd'hui, il faut prendre des décisions, être en responsabilité, comme ça vient d'être dit. Donc il y a le sujet de la fiscalité, effectivement, qui nous semble important et qui est aussi une des propositions de la commission Rebsamen. C'est peut-être pour ça que vous êtes en manque de scoop. C'est parce qu'il y a eu un travail en amont auquel les partenaires du logement ont été associés et que du coup, le Premier ministre a fait un petit peu l'état des lieux, des propositions qu'il reprenait à son compte et qui seront transformées.
Donc pour vous, le discours du Premier ministre, comme le dirait Vincent Mahé, a été nourri et finalement plutôt rassurant, avec un signal fort de l'exécutif quand même, de sécuriser justement, on parlait de la taxe foncière, pour les 10 prochaines années.
Oui, on sait bien que un des freins mis à la construction, c'est cette question de la pression fiscale. Donc trouver une solution, proposer une solution durable sur ce sujet-là nous semble un point important. Alors c'est pas un scoop, parce que c'est issu de propositions...
On s'attendait à ce que le développement, alors avec la remise du rapport Rebsamen, bien évidemment, d'ailleurs je précise que le 19 octobre, on sera à l'hôtel de ville de Dijon avec François Rebsamen pour détailler un peu plus avec nos confrères du Figaro ce dossier. Justement, pour le rapport Rebsamen, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez, encore une fois, je ne fais pas le journaliste, mais est-ce que vous pensez que les mesures verront bien le jour dans le prochain PLF, par exemple?
On le saura très très vite.
D'aucuns ont quand même noté que la commission constituée 7-8 mois avant les présidentielles, ça arrive pas un peu tard, non? De faire un constat qu'il manque de logements neufs dans notre pays, on aurait peut-être dû le faire un peu plus tôt, non?
Bah là, effectivement, vous faites le journaliste.
La situation a vraiment changé du tout au tout. C'est-à-dire que moi, je me rappelle encore en 2020, il y avait presque un manque de demande de logements. Et on a acheté, nous, beaucoup de logements pour faire une espèce de relance. Là, on est dans une situation exactement inverse un an plus tard. C'est-à-dire que le problème est un pur problème d'offres. Il n'y a plus de projets. Les autorisations, les collectivités locales ne délivrent plus de permis de construire. Et évidemment, la seule raison n'est pas l'enjeu fiscal. La commission Rebsamen a beaucoup travaillé, elle fait beaucoup de propositions. Mais ce qui était véritablement dans le champ de l'État et ce qui était un peu le test de vérité pour l'État, c'était de dire au moins ce sujet fiscal, je m'en saisis et je fais ce que je dois faire pour que les autres acteurs puissent s'aligner. Bon, ça, on va dire, ça a été fait, et ça a été fait effectivement dans un climat plutôt pacificateur pour l'ensemble du mouvement du logement social.
Oui, absolument. Ouais. Alors justement, Benoît Quignon, vous qui êtes délégué général à la ville de Marseille, alors vous connaissez bien le sujet, évidemment. Réaction, voilà.
Alors, deux réactions, et puis peut-être un mot d'explication sur la posture des collectivités locales. Sur la réaction par rapport au discours du Premier ministre. Moi, je rejoins mes prédécesseurs. Je crois que le discours du Premier ministre a été un discours apaisé. Le Premier ministre a rappelé qu'il s'était lui-même, à titre d'élu local, impliqué dans la construction de logements. Il a salué les efforts du mouvement HLM. De ce côté-là, je pense qu'il a donné des signes très, très positifs. Et puis, le signe, moi, que j'ai noté également, c'est d'avoir repris, finalement, à son compte, il l'a dit à plusieurs reprises, le rapport Rebsamen, dont il a salué la qualité. Et connaissant le contenu du rapport, mais aussi la personnalité de François Rebsamen, c'est aussi un signe, parce que François Rebsamen n'a pas mis sa langue dans sa poche. Il a posé un certain nombre de sujets.
C'est vrai que ça ne lui ressemble pas du tout.
Ça ne lui ressemble pas du tout. Il a égratigné, d'ailleurs, en ancienne maison, la SNCF, si j'ai bien compris, et plus largement la question des actifs et du foncier de l'État. Non, je pense que c'était un discours, moi, je l'ai trouvé très sérieux, très structuré. Alors, effectivement, peut-être pas avec le charisme ou le panache d'autres premiers ministres, mais l'important, je pense, pour le monde HLM et pour le logement en général, c'est quand même d'avoir ce type de posture. Alors, sur les collectivités locales, moi, je voudrais apporter un éclairage qui n'est pas forcément, d'ailleurs, propre à la ville de Marseille, mais plus général. Ça fait des années que et là c'est l'État qui est responsable de cet état de fait, un décalage finalement entre la dynamique qui peut être impulsée par des collectivités locales sur le plan économique, sur le plan du logement, et leurs ressources fiscales. Progressivement, pour des raisons qui sont toujours évidemment excellentes, On a bridé la dynamique des taxes sur les entreprises. On l'a fait récemment avec la taxe d'habitation. À chaque fois, évidemment, ces recettes sont compensées, mais elles sont compensées à un niveau qui est ensuite stabilisé. C'est-à-dire qu'une collectivité qui s'engage dans une politique de développement ou tout simplement de renouvellement, eh bien, elle n'en tire aucun bénéfice, aucune ressource complémentaire ou supplémentaire. Et c'est à la fois un manque à gagner, mais aussi une difficulté pour les élus qui ont du mal à expliquer à leurs habitants. Mais vous savez, cette dynamique, et moi je me souviens avoir servi Gérard Collomb à Lyon, Gérard Collomb disait souvent à ses concitoyens, chers amis, on fait un effort, on investit, mais il y a de la richesse qui va arriver. Il va y avoir des personnes, des entreprises, mais aussi des ressources pour la ville et pour la métropole. Et donc, on va pouvoir redistribuer. Et ça, ce discours-là, on ne peut plus le tenir aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai sujet de ce point de vue-là qui touche au logement, à l'accueil des entreprises. Les deux sujets, d'ailleurs, étant très liés, on le voit bien, par exemple, à Marseille.
Réaction, Vincent Maillot ?
Entièrement d'accord, bien entendu. Ce qui a été dit d'ailleurs aussi hein, par le Premier ministre, par la commission Rebsamen, par tous les gens qui s'intéressent aux grandes métropoles, c'est-à-dire au front de bataille où se mène le combat pour le logement social et pour les logements. C'est là que le manque de logement est important. C'est qu'effectivement, plus personne ne ressent l'intérêt du développement et qu'il faut presque réhabiliter l'acte de construire, l'acte d'être dynamique pour une collectivité locale. Et derrière tout ça, au-delà des philosophies, des approches, évidemment qu'il y a des enjeux financiers lourds quand une collectivité fait l'effort de se projeter, quand un maire prend le risque politique de définir un projet, il faut qu'il ait la certitude que, à échéance, pas tout de suite, bien entendu, c'est un investissement, mais à échéance de 4 ans, 5 ans, ces administrés en verront les fruits. Sinon, ça ne marche pas.
C'est
évidemment, clair. La machine se bloque.
C'est l'acceptabilité. On parle d'acceptabilité, en fait.
Oui, et on peut reprendre les propos d'Emakos hier, qui dit on ne doit pas s'excuser de construire. Donc ça vaut pour les bailleurs sociaux, ça vaut aussi pour les collectivités qui sont à la manœuvre, et bien entendu aussi pour les promoteurs qui nous accompagnent dans ce développement. Donc effectivement, le sujet est celui-ci, ce qui doit nous interroger aussi sur nos propres pratiques de concertation dans les territoires dans lesquels nous bâtissons.
Alors justement, les collectivités locales, vous les connaissez bien, hein, voilà, vous travaillez avec eux au quotidien. Pourquoi depuis maintenant 3 bonnes années, on a une chute graduelle du nombre de permis de construire, qu'on a du mal? Est-ce que, alors bien évidemment, il n'a échappé à personne qu'il y a eu des élections municipales, qu'il y a eu un bouleversement de l'échiquier des collectivités locales, avec des nouvelles, faut le dire, des nouvelles mandatures qui arrivent et qui ont une vision différente. Voilà. On est à Bordeaux, on est ici à Bordeaux et on sait que le maire de Bordeaux, au moins il a pris personne au dépourvu puisqu'il avait annoncé la couleur pendant sa campagne, on est d'accord. Lyon, c'est pareil avec Grégory Doucet. On a d'autres villes aussi qui s'inscrivent là-dessus, avec la réélection notamment d'Éric Piolle à Grenoble par exemple. Moi, la question que je vous pose, parce que vous êtes axé sur le logement, vous êtes un constructeur de logement. Action Logement est le pivot, finalement, comme vous, Vincent, dans ce pays. Il faut bien loger les Français, à un moment donné.
Ça, on est d'accord sur le constat sommes à la manœuvre tous les jours.
Non, mais qu'est-ce qu'ils vous disent, voilà, mais qu'est-ce qu'ils vous disent
En fait, on a une conjonction de différents phénomènes. Effectivement, vous l'avez rappelé, des élections locales.
Vous leur
locales.
Dites aux maires de ville, signez-nous, instruisez les permis, quoi.
Bien entendu. Mais il y a aussi la démarche d'avoir du foncier pour proposer des permis de construire à signer. Donc ça, on a aussi un enjeu sur ce sujet-là. Ce qui est légitime, après des élections locales qui renouvellent les exécutifs, comme ça a été le cas, c'est aussi... sous le contrôle de Bertrand Quignon, Benoît Quignon, c'est le sujet aussi des équipes qui veulent se réapproprier la question de l'urbanisme et la question du logement dans leur collectivité. Et c'est légitime, ça prend un peu de temps. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi un phénomène de cette nature-là. On ne doit pas oublier aussi la pandémie, qui a été aussi un sujet qui nécessite de se reposer des questions sur l'habitat désiré sur les territoires, et puis aussi qui a peut-être mis à mal certains fonctionnements de certains opérateurs. Donc il y a différentes dynamiques. Et puis il y a cette question de l'accès au foncier qui est primordial avant même d'avoir un projet de construction. Il faut avoir
foncier. Le foncier, c'est la dent creuse. Hein, la dent creuse qui emmerde tout le monde parce qu'effectivement, il faut trouver la possibilité d'avoir de la prise foncière. Oui, vous vouliez réagir rapidement ?
Oui,
je vais poser la question sur le foncier ensuite.
Oui, bien sûr. Alors,
parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus étaler la ville, hein, Benoît.
Absolument. On ne veut plus étaler la ville. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne chose.
Comment on fait pour plus étaler la ville et avoir une démographie qui est positive et qui est pléthorique, et aujourd'hui, on a une pression. Marc Oppenheim, le patron du Crédit Agricole Immobilier, dit la chose suivante, il y a ce qu'on appelle des contraintes absolues, vous savez, des impératifs auxquels on ne peut pas se soustraire. Il faut loger les gens et on peut pas étaler la ville.
Oui, alors la ville... Elle est faite de creux et de pleins, et il y a beaucoup, quand on la regarde de très près, avec un œil attentif, et les professionnels, je pense, savent de quoi je veux parler, il y a toujours plein d'opportunités. On peut remembrer, on peut reprendre des bâtiments et les surélever, on peut aussi accompagner la mutation d'actifs tournés vers le bureau, vers les activités. Ça, c'est vrai pour quelques très grandes métropoles, je pense notamment à Paris, bien entendu. On peut rendre aussi, et c'est ça qui est nécessaire et qui est le plus difficile, rendre cette ville à la fois plus dense et plus désirable, c'est-à-dire imaginer des formes d'habitat, des formes urbaines qui sont plus accueillantes, plus ouvertes.
Pardonnez-moi, Benoît Quignon. Plus haut.
Et plus haut, bien sûr. Mais il faut le dire, aussi.
On peut assumer l'idée de la hauteur.
Oui, même si c'est difficile.
Benoît a travaillé à la métropole de Lyon, donc il assume la hauteur. Il assume.
Bien sûr.
C'est la question de l'intensité urbaine.
C'est l'intensité, voilà. Moi, je préfère parler d'intensité. Parce que ça peut se passer par de la hauteur, ça peut passer aussi par des aménagements qui sont différents sur des délaissés. Et il y en a même dans les villes les plus, entre guillemets, les plus compactes. J'ai travaillé sur le territoire de la ville de Paris. Il y a, paradoxalement, aujourd'hui, il y a 70 hectares de friches ferroviaires à Paris. Donc on sait qu'il y a des opportunités, on sait qu'on peut les utiliser. Le débat, par contre, il est ouvert avec des nouvelles équipes qui ont des visions de l'urbanisme et du rapport aux habitants qui sont assez diamétralement opposées, si ce n'est différentes des équipes précédentes. Moi, je le vois et je l'accompagne, je l'ai accompagné ces derniers mois à la ville de Marseille avec des élus qui s'approprient, Patrick le disait à l'instant, s'approprient progressivement à la fois la complexité des outils, mais aussi des enjeux et des contradictions qui sont, il faut à la fois s'attaquer à Marseille, à l'habitat indien, il faut s'attaquer aux copropriétés dégradées, il faut aussi avoir une offre de logement nouveau, et tout ça, il faut arriver à le faire ensemble. Ce n'est pas facile, et il faut le faire avec les habitants, et là, ça n'a jamais été facile.
Patrice Thier.
Oui, alors sur l'intensité urbaine, et Benoît vient de le dire, Action Logement a créé une foncière de transformation immobilière qui vise à acheter des actifs, notamment de bureaux essentiellement d'ailleurs, et les transformer en logement. Et on voit que c'est un sujet maintenant qui devient prégnant. Vincent Maillet en parlait aussi pour CDC Habitat qui se lance aussi sur ce sujet. Et je crois qu'on sera deux opérateurs majeurs sur ce thème-là. Et on va participer à la transformation. Et puis cette transformation peut s'accompagner de cette intensité, c'est-à-dire une surélévation de bâtiments. On doit être plus malin.
La surélévation, ça n'a pas super bien fonctionné dans les grandes villes. Il faut être honnête.
Non, ça n'a pas fonctionné. Mais je crois qu'on est
une copropriété, un type
c'est
qui
pas pour autant qu'il faut abandonner.
Le type qui est au quatrième étage, on va lui dire on va te construire deux étages supplémentaires.
Mais pourquoi ça n'a pas marché? On va y revenir. Le moment de ce congrès, je crois que c'est important, c'est quand même celui d'une prise de conscience. C'est-à-dire que on a vu le Premier ministre dire, et un certain nombre d'acteurs, de grands élus qui s'exprimaient aussi hier, dire qu'il faut réhabiliter l'acte de construire et que l'urgence, la véritable urgence sociale du pays, avec une génération de jeunes qui a beaucoup souffert dans l'accès à l'emploi, qui va maintenant souffrir dans l'accès au logement, si on ne construit pas ce qu'il faut construire. Donc il y a au moins, après 2 ans qui ont été 2 ans de freinage, moi je sens une prise de conscience. Et ça, c'est extrêmement positif. Alors on va construire, il va falloir le faire différemment. Il va falloir le faire effectivement en ayant un petit peu plus de densité, ce que vous appelez un petit peu plus de hauteur, en transformant les bureaux en logement. Action Logement a créé son véhicule. Nous-mêmes, nous avons créé un véhicule pour faire beaucoup plus d'opérations de transformation de bureaux en logement.
Et ça marche. Vraiment, ça marche.
Et ça marche aussi si les collectivités ont envie de suivre. La raison pour la technique pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que on donnait des bonus de constructibilité, la loi les donne, mais les élus ne les appliquent pas. C'est-à-dire que normalement, vous avez un PLU. Si vous transformez du bureau en logement, vous avez plus 30%. Et la collectivité, non seulement ne vous donne pas les 30%, mais ne vous donne même pas la constructibilité du PLU original.
Donc, il y a vraiment un dialogue à rétablir.
C'est pour ça.
On a l'impression de presque un dialogue de source. C'est presque du UNESCO quand on a un moment donné.
Mais c'est pour ça qu'il était vraiment important de rétablir le dialogue et les conditions fiscales pour que les collectivités puissent changer leur approche de ces dossiers.
On approche de la fin de l'émission de cette table ronde qui a été un peu raccourcie quand même là-dessus, mais je vous invite messieurs à renouveler l'expérience. En tout cas, Vincent Mahut est un habitué maintenant de la radio, donc on va bénéficier de tout ça. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table sur la question suivante, l'avenir, les 18 prochains mois. Il n'a échappé à personne qu'on a une élection majeure dans notre pays en mai 2022 qui va être quand même impactée. Moi, je vous pose cette question. Il n'est pas d'usage dans les programmes des candidats, sauf peut-être un candidat qui disait tous propriétaires il y a quelques années, que la politique du logement soit au cœur de la préoccupation. Alors quand on leur pose la question aux candidats, d'ailleurs on va tous les recevoir ici, ils nous disent oui mais j'en parle parce que quand je parle de rénovation énergétique ou quand je parle d'éducation ou quand je parle de culture, un bloc programme, vous savez, un bloc programme, le bon vieux bloc programme sur le premier facteur d'inclusion sociale, vous le savez Vincent, c'est le logement. Est-ce que vous le plaidez, voilà, rapidement, tour de table?
C'est sûr, de toute façon, que si vous regardez le budget d'une famille, il y a un bloc logement, hein, ouais. et qu'il est même, enfin, c'est même le premier poste. Et aujourd'hui, dans une grande ville, plus d'un tiers des dépenses de la famille. Donc oui, ça intéresse. Et par ailleurs, quand on s'intéresse aussi au sujet climatique, le bâtiment, c'est 40% encore des émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment que si on ne traite pas le sujet en lui-même, avec les collectivités locales qui en sont maintenant les principaux responsables et avec de grands opérateurs, on ne va pas loin.
C'est clair. Merci beaucoup Vincent Mahut. Patricier.
Bien entendu, nous espérons que cette période électorale majeure pour notre pays mette le logement au cœur des débats. C'est un vœu. Quand on voit les enquêtes d'opinion, les Français placent le logement dans des préoccupations importantes de leur vie. Donc j'ose espérer qu'on retrouvera ça dans les programmes. Les collectivités locales et les élus locaux ont souvent placé le logement dans les sujets de débat locaux au moment des élections locales. Donc j'espère qu'au niveau national, on pourra aussi retrouver des propositions fortes et que les Français sentent que ce sujet qui les préoccupe est au cœur des programmes.
Merci, Patricier.
On peut espérer effectivement que lors de la prochaine présidentielle, de la prochaine campagne, la contribution faite par François Rebsamen et puis les débats qu'on a aujourd'hui au Congrès vont alimenter effectivement les débats de la campagne et que les candidats vont aussi prendre en compte, reconnaître ce qu'on a souligné ce matin mais qui est trop peu connu, c'est le rôle majeur d'accompagnement des collectivités locales dans ce domaine et il faut leur donner envie ou plus exactement les aider parce qu'elles ont envie mais les aider à assumer leurs responsabilités dans ce domaine.
Merci beaucoup Benoît Quignon. Voilà, une séquence courte mais intéressante pour évoquer le discours de Jean Castex hier. Merci à vous Vincent Mahut, directeur général de CDC Habitat. Merci beaucoup Patrice Tillet, directeur général adjoint d'Action Logement Immobilier.
Merci.
Merci à vous Benoît Quignon, délégué général de la ville de Marseille. Je vous invite à revenir sur le plateau pour prolonger la discussion. C'est une série à épisodes. Restez connectés sur Territoria et Radio Immo. On se retrouve tout de suite après.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.